Être et vivre entre l'univers et l'homme. Sixième cours. Les attributs de l'univers. Après avoir abordé les causes de l'univers à partir du mouvement naturel, de ce qui est mu, en particulier la cause matérielle, son fondement, et la cause finale, sa finalité immanente avec la phusis, la nature, et une découverte sur sa transcendance avec la lumière, nous avons essayé de répondre à la question « Qu'est-ce que l'univers ?» C'est une réponse au « Pourquoi ?» qui se pose en premier lieu et qui entraîne en second lieu une autre réponse au comment de l'univers. C'est dans cette perspective de notre recherche philosophique qu'est intitulé ce sixième chapitre, Les attributs de l'univers. Un attribut est une propriété essentielle, nous dit le dictionnaire Le Petit Robert. Un attribut spécifique qualifie au sens général du mot, participe à l'identification de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, dans la philosophie d'Aristote, les catégories désignent les 10 prédicaments ou attributions de l'homme, partant de sa substance, c'est-à-dire ce qu'il a d'essentiel en lui, son être, puis ce qui est relatif à son être, ses attributions, la qualité, la quantité, la relation, le temps, le lieu, etc. Les attributions n'existent qu'en rapport à un autre, un premier, dans le cas présent, l'homme dont elles dépendent. Dans une certaine mesure, il en est de même pour la nature, sans pour autant qu'elle soit du même ordre. Puisque l'univers physique n'est pas un homme doté de l'esprit, n'est pas une réalité et la réalité la plus parfaite de l'univers qu'est l'homme, puisque c'est l'univers pour lui-même que nous regardons. Deux domaines d'attribution sont étudiés dans ce chapitre, tourné vers la manière dont l'univers existe. En premier, la question du lieu et du temps propre au devenir, donc au mouvement naturel. Puis, les éléments constituant l'univers, les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et un cinquième élément, la quintessence, qu'Aristote étudie successivement dans ses traités de la physique, du ciel et des météorologiques. Premièrement, le lieu. Dans la physique, Aristote aborde la question du lieu à partir d'une expérience concrète. Tout le monde prend comme point de départ, en effet, que les êtres sont quelque part, car ce qui n'est pas n'est nulle part. Où est le bouc cerf ou le sphinx? Et parmi les mouvements, le plus commun et le principal est celui selon le lieu, que nous appelons transport. Fermez les guillemets. Le transport désigne naturellement le mouvement d'un corps ou d'une réalité, non seulement d'un point vers un autre, d'un lieu vers un autre lieu, impliquant une distance parcourue, mais aussi d'une façon plus immanente, d'un état vers un autre état. On donne donc aussi à la notion de lieu une signification locale, qualitative, due au mouvement immanent de l'objet en lui-même. C'est ce qu'Aristote précise. Ouvrez les guillemets. En outre, les transports des corps naturels simples, comme le feu, la terre et les choses de cette sorte, montrent non seulement que le lieu est quelque chose, mais aussi qu'il a une certaine puissance. En effet, si rien n'y fait obstacle, chacun se porte vers son lieu propre, l'un en haut, l'autre en bas, et ce sont là les parties et les espèces du lieu, le haut, le bas et le reste des six directions. Fermez les guillemets. Cela signifie que la réalité mue, ce qui est mu, est finalisé par le lieu où il se trouve, c'est-à-dire le lieu où il se meut naturellement, le haut pour le feu, le bas pour la pierre ou l'eau, par exemple. Qu'est-ce que le lieu ? À partir de l'expérience, donc de l'intelligence liée au sens, Aristote pose la question. Dès lors, que pourrions-nous bien poser que soit le lieu ? Ayant une telle nature, il ne peut être ni un élément, ni un composé d'éléments, que ceci soit corporel ou incorporel. En effet, il possède une grandeur, mais pas de corps. Or, les éléments des corps sensibles sont des corps, et à partir des intelligibles n'advient aucune grandeur. Pour ces raisons donc, il est nécessaire de se demander non seulement ce qu'est le lieu, mais aussi s'il existe. Fermez les guillemets. Aristote répond, en prenant l'exemple du vase, avec le contenant et son contenu. Le contenant désigne le lieu du contenu. Ainsi, le Stagirite explique. Pour qui l'examine ainsi, le lieu est la forme de chaque chose, mais en tant qu'il semble être l'extension de la grandeur, il est la matière. C'est pourquoi aussi Platon dit dans le Timée que la matière et l'espace sont la même chose. La forme et la matière ne peuvent être séparés de la chose, tandis que le lieu peut l'être. Là où il y avait de l'air, il y a ensuite de l'eau, comme on l'a dit, parce que l'eau et l'air se substituent l'un à l'autre, et il en va de même pour les autres corps, de sorte que le lieu n'est ni une partie, ni une propriété acquise, mais il est séparable de chaque chose. Et en effet, il semble que le lieu soit une chose semblable à un vase, car le vase est le lieu transportable. Or, le vase n'est rien de la chose. Quant à Platon, il doit expliquer, si l'on me permet cette digression, pourquoi les idées et les nombres ne sont pas dans un lieu, puisque le lieu est ce qui peut contenir, que ce soit là le grand et le petit ou bien la matière, comme il est écrit dans le Timée. On a dit ainsi les raisons pour lesquelles le lieu est nécessairement quelque chose, et ensuite celles pour lesquelles on pourrait être embarrassé concernant son essence. Fermez les guillemets. Aristote critique la théorie des formes. Pour Platon, le couple forme et matière n'existe pas. Seule la forme en soi existe. Elle montre ce qu'est le lieu pour Platon qui, de fait, avoue être embarrassé concernant son essence, donc son existence. Pour Aristote, l'expérience du vase montre la résidence d'un mouvement, d'un transport qui s'est opéré en un endroit qui est le lieu de la chose où matière et forme sont unies. D'autre part, il prend l'exemple de l'eau et de l'air pour répondre à Platon dans le Timée. L'eau peut devenir air par évaporation, comme l'air peut devenir eau par condensation. Pour Platon, la réalité physique n'existe pas puisqu'elle est en transformation constante, en capacité incessante de devenir. Il n'y a donc pas de lieu dans la mesure où il n'y a pas de corps, d'alliance matière et forme. Tandis que pour Aristote, le lieu où réside la réalité en tant que mue est une chose semblable à un vase, car le vase est le lieu transportable, dit-il. L'étude du lieu se rapporte au contenant, là où réside le contenu du couple matière et forme. Et ceci encore est manifeste, dit Aristote, que puisque le vase n'est rien de ce qui est en lui, car le contenant immédiat et le contenu sont différents, le lieu ne pourrait être ni la matière, ni la forme, mais autre chose. En effet, et la matière et la forme sont quelque chose de ce qui est contenu. Voilà donc pour le parcours des difficultés. Fermez les guillemets. Le lieu existe dans le mouvement et dans ce qui est mu, la chose, la réalité. Il faut donc d'abord comprendre qu'on ne mènerait pas de recherche sur le lieu s'il n'y avait pas un mouvement selon le lieu, précise Aristote. Car c'est à cause de cela que nous croyons que l'univers est dans un lieu parce qu'il est toujours en mouvement. Fermez les guillemets. Dans le mouvement selon le lieu, y a-t-il un ordre dans l'univers? Il semble que oui. En effet, les réalités les plus parfaites attirent les réalités les moins parfaites. Cet ordre existe chez les animaux en vue d'une harmonie propre à l'univers. En effet, il est nécessaire qu'il y ait une hiérarchie dans l'ordre des besoins vitaux des êtres vivants, d'où cet ordre dans la nature. Enfin, l'étude du lieu pose celle du vide, qui peut être l'absence de contenant en l'absence de contenu. Au sujet du vide, Aristote écrit dans la Physique : les hommes entendent par vide l'étendue dans laquelle ne se trouve aucun corps sensible. Cependant, pensant que tout ce qui est corps, ils disent que ce dans quoi il n'y a absolument rien, cela est vide. Le vide n'est pas parmi les êtres. Voilà donc une première façon de montrer l'existence du vide. Il semble que le vide soit un lieu dans lequel il n'y a rien. La cause en est que l'on croit que l'être est un corps. Or, tout corps est dans un lieu, et le lieu où il n'y a aucun corps est vide. De sorte que, si quelque part il n'y a pas de corps, il y a là du vide. Fermez les guillemets. Donc, le vide caractérise bien l'absence de corps. Deuxièmement, le temps. Quand on aborde cette question du temps, on saisit aussi la durée, le temps qui passe, le temps qu'il faut pour faire telle chose, atteindre tel objectif que l'on s'est fixé ou qui nous est imposé par la vie. Par contre, parfois le temps nous échappe quand nous ne le saisissons plus, quand le temps qui passe va trop vite, quand notre esprit le dépasse comme s'il n'existait plus. Dans la physique, Aristote l'examine. À la suite de ce qu'on vient de dire, il faut poursuivre au sujet du temps. Que donc, il n'existe pas du tout, ou à peine, et obscurément, on peut le supposer d'après ceci. Une partie de lui est passée et n'est pas. L'autre est à venir et n'est pas encore. Et c'est de celle-ci qu'est composé le temps infini et le temps toujours recommencé. Or, du temps, les unes, les parties, sont passées, les autres sont à venir, mais aucune n'est, alors qu'il est morcelable. Quant à l'instant, il n'est pas une partie, car la partie mesure, et il faut que le tout soit composé des parties. Or, le temps ne semble pas composé des instants. Fermez les guillemets. Le temps paraît être la distance qui sépare le passé du futur. Il est un tout fait de parties passées, présentes et à venir. Car, dans le devenir, où règne le multiple et le divisible, le tout est toujours un composé de parties. Qu'est-ce que le temps ? De fait, le temps existe-t-il ? Partant de l'expérience, son expérience ou celle que d'autres ont fait, Aristote ajoute : les uns disent qu'il est le mouvement du tout, les autres la sphère elle-même. Puisque le temps semble surtout être un mouvement et un changement, c'est cela qu'il faudrait examiner. Que donc, le temps n'est pas un mouvement, c'est manifeste. Que donc, le temps n'est ni le mouvement, ni sans le mouvement, c'est manifeste. Mais puisque nous cherchons ce qu'est le temps, il nous faut saisir, en partant de là, ce qu'il est du mouvement. Le temps est soit mouvement, soit quelque chose du mouvement. Puisque donc il n'est pas mouvement, il est nécessairement quelque chose du mouvement. Fermez les guillemets. En effet, le temps n'est pas le mouvement. Le mouvement naturel provenant de l'alliance d'une matière et d'une forme, le temps ne peut être le mouvement lui-même. Toutefois, il dit quelque chose du mouvement entre le passé, le présent et le futur. D'ailleurs, précise Aristote, nous disons qu'il s'est passé du temps lorsque nous prenons sensation de l'antérieur et postérieur dans le mouvement. Ce qui est défini par l'instant semble être le temps. Considérons cela comme établi. Lorsque donc nous percevons l'instant comme unique et non comme antérieur et postérieur dans le mouvement, ni comme le même, mais avec quelque chose d'antérieur et postérieur, il nous semble qu'aucun temps ne s'est passé, parce qu'il n'y a eu aucun mouvement. Le temps n'est donc pas mouvement, mais en tant que le mouvement possède un nombre. Fin de citation. L'instant présent, qui est dans le temps sans être du temps, donc du mouvement, définit le temps comme sa mesure. Le temps est la mesure du mouvement, du présent entre le passé et le futur. Seul le présent est. Le passé n'est plus et le futur n'est pas encore. Donc, l'instant présent en tant que mesure du mouvement est mesure de ce qui est mu. Ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore ne peut pas être mesure. Le temps n'existe pas en tant que tel, en tant que réalité existante. Le temps est une construction de l'intelligence qui reçoit les réalités existantes qui appartiennent au monde sensible, donc à l'ordre du devenir. L'animal ne réfléchit pas au temps, au passé, au présent ou au futur. Il vit dans le devenir mesuré par le temps, qui lui-même est mesure du mouvement. Le temps n'existe que dans l'intelligence de l'homme. En effet, l'intelligence peut revenir au passé ou bien se projeter dans l'avenir. Mais le passé et l'avenir n'existant pas, seul l'instant présent existe en réalité. Il est intéressant de mettre en relation ces trois niveaux du temps. En particulier du passé qui fut et du présent qui est, mais qui est dans notre intelligence comme au-delà du temps, puisque l'instant est, comme l'être, au-delà du devenir, au-delà du mouvement. Dans la physique, distinguant ensuite le mouvement et le repos, Aristote montre ce qui est mesuré par le temps, puis ce qui ne peut l'être. Il y a aussi une affection due au temps. Comme nous avons coutume de dire que le temps consume, que tout vieillit sous l'action du temps, et que le temps apporte l'oubli, mais pas que l'on apprend, ni que l'on devient jeune et beau. Car le temps est par lui-même plutôt cause de destruction. En effet, il est le nombre du mouvement, et le mouvement défait ce qui est. Par conséquent, il est manifeste que les choses qui existent toujours, en tant qu'existant toujours, ne sont pas dans le temps, car elles ne sont pas contenues par le temps et leur être n'est pas mesuré par le temps. Un indice en est qu'elles ne sont en rien affectées par le temps, parce qu'elles ne sont pas dans le temps. D'autre part, puisque le temps est mesure du mouvement, il sera aussi mesure du repos par accident, car tout repos est dans le temps. En effet, tout ce qui est immobile n'est pas en repos, mais bien ce qui a été privé de mouvement, étant par nature susceptible d'être mu, comme on l'a dit précédemment. Et le temps mesurera ce qui est mu et ce qui est en repos, l'un en tant que mu, l'autre en tant que repos. Par conséquent, tout ce qui n'est ni en mouvement ni en repos n'est pas dans le temps. Car être dans le temps, c'est être mesuré par le temps. Et le temps est mesure du mouvement et du repos. Fermez les guillemets. Le temps est le nombre du mouvement, dit Aristote. Mesure du mouvement qui entraîne le changement. Car qui dit mouvement dit changement. Ce qu'Aristote observe, ouvrez les guillemets, que donc le temps est ce qu'il est, en combien de sens nous disons l'instant, et ce que signifie à un certain moment, récemment, tout à l'heure, jadis et instantanément. Tout cela a été dit. Tout cela étant enceint ainsi défini, il est manifeste que tout changement et tout mu sont dans le temps. Par ailleurs, l'antérieur est dans le temps, car nous disons antérieur et postérieur selon l'écart par rapport à l'instant. Et l'instant est la limite du passé et du futur. De sorte que, puisque les instants sont dans le temps, l'antérieur et le postérieur sera aussi dans le temps. Car là où est l'instant est aussi l'écart par rapport à l'instant. Par conséquent, puisque l'antérieur est dans le temps et qu'il accompagne tout mouvement, il est manifeste que tout changement et tout mouvement sont dans le temps. Fermez les guillemets. Entre le mouvement et le changement, le temps est-il le même? Pour des mouvements accomplis ensemble, dit Aristote, le temps est le même. Et l'un peut être rapide, l'autre pas. Ou l'un un transport, l'autre une altération. Le temps est cependant le même, si le nombre est égal et simultané, pour l'altération et pour le transport. C'est pourquoi les mouvements sont différents et séparés, mais le temps est partout le même. Parce que le nombre est partout un, est le même pour des mouvements égaux et simultanés. Fermez les guillemets. Troisièmement, les quatre éléments. Pourquoi parler d'éléments? Parce qu'un élément est la partie d'un tout qui, dans notre étude, est l'univers. Il désigne l'élément fondamental constitutif de la réalité physique. L'élément est partie d'un ensemble d'éléments qui forment un tout que l'homme, par les sens, reçoit dans une expérience fondamentale. En premier lieu, les sensibles propres sont un contact immédiat avec la réalité, puis les sensibles communs qui permettent de passer du point de vue qualitatif à la quantité, donc à la mesure, puis d'accéder à la science moderne. Cette saisie n'est donc pas scientifique, mais pré-scientifique et d'ordre philosophique, puisqu'elle est liée à des qualités propres sous l'action des sensibles propres. En effet, les qualités fondamentales du toucher avec le chaud et le froid, le sec et l'humide, permettent cette saisie des éléments. Aristote précise dans la physique que les éléments des corps sensibles sont des corps. De même, les qualités fondamentales de la vue font la différence entre la montée vers le haut et la descente vers le bas. La vue et le toucher représentent les deux sensibles propres qui permettent de découvrir les éléments naturels en mettant successivement au contact du mouvement local par la vue et du mouvement d'altération par le toucher. C'est par ces deux mouvements que la réalité fondamentale est reçue au-delà de toute expérimentation scientifique. Entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, des philosophes grecs que la tradition désigne par présocratiques ont étudié et découvert les éléments fondamentaux de l'univers. Qui sont-ils? Qu'ont-ils découvert? Ils ont recherché ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'univers, les principes du cosmos. Pour Thalès, c'est l'eau. Pour Anaximandre, c'est l'infini. Pour Anaximène, l'air. Pour Pythagore, le nombre. Pour Parménide, l'être. Pour Héraclite, le feu. Pour Anaxagore, l'esprit. Pour Empédocle, ce sont quatre éléments conjugués. La terre, l'eau, l'air et le feu, qui désignent les éléments premiers de l'univers physique. Ce qu'Aristote affirme, plus un qu'il ajoutera, le cinquième élément, qui est la quintessence. D'Empédocle, nous pouvons lire ce texte symbolique. Connais premièrement la quadruple racine de toute chose. Zeus, au feu lumineux, Héra, mère de vie, et puis Édonéus. Nestis, enfin, aux pleurs dont les mortels s'abreuvent. Fin de citation, tirée des présocratiques chez Gallimard. Dans Vie et doctrine des philosophes de l'Antiquité, ouvrage réunissant des textes de Diogène Laërce, poète et biographe du 3e siècle après Jésus-Christ, il est écrit dans son chapitre sur Empédocle. Il admettait l'existence de quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, auxquels il ajoutait l'amitié qui réunit et la discorde qui divise. Voici ses paroles. Le rapide Jupiter, Junon qui porte la vie, Édoné et Nestis, qui remplit de larmes amères les yeux des mortels. Pour lui, Jupiter est le feu, Junon la terre, Édoné l'air, Nestis l'eau. Il prétend que les éléments ont un mouvement continuel de transformation et que ce mouvement ne doit jamais s'arrêter, l'organisation du monde étant éternelle. Il infère de là que tantôt l'amitié réunit toutes choses et fait dominer l'unité, tantôt au contraire, la discorde divise et sépare les éléments. Il croit que le soleil est un immense amas de feu et qu'il est plus grand que la lune a la forme d'un disque et que la voûte du ciel est semblable au cristal. Son traité de la nature et ses expiations comprennent 5000 vers. Fermez les guillemets. Dans son chapitre sur Aristote, nous pouvons lire de Diogène Laërce à propos des découvertes du Stagirite. Indépendamment des quatre éléments, il en existe un cinquième, dont sont composés les corps célestes et qui possède un mouvement propre à lui seul, le mouvement circulaire. Fermez les guillemets. Quatrièmement, le cinquième élément. Dans le traité du ciel, Aristote nous livre sa recherche qui aboutit à la découverte d'un cinquième élément provenant du mouvement circulaire. Ouvrez les guillemets. Ce qui est parfait est antérieur par nature à ce qui est imparfait. Or, le cercle fait partie des choses parfaites, ce que n'est aucune ligne droite, ni la droite indéfinie, car elle aurait alors une limite et une fin, ni aucune des lignes limitées. De sorte que, puisqu'un mouvement antérieur appartient à un corps antérieur par nature, que le mouvement en cercle est antérieur au mouvement rectiligne, et que le mouvement rectiligne appartient au corps simple, car c'est en ligne droite que le feu est transporté vers le haut et les choses terreuses vers le bas en direction du centre. Il est aussi nécessaire que le mouvement en cercle appartienne à un des corps simples. Fermez les guillemets. Après avoir distingué les deux types de mouvements, le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire, Aristote étudie la relation existant entre le mouvement et le lieu. Si l'un des mouvements est plus parfait que l'autre. Ouvrez les guillemets. Si le transport en cercle est naturel pour quelque chose, il est clair que parmi les corps simples et premiers, il y en aura un qui par nature se trouve transporté naturellement en cercle, comme le feu l'est vers le haut et la terre vers le bas. C'est pourquoi celui qui raisonne en partant de tout cela pourrait se convaincre qu'en plus des corps qui existent ici autour de nous, il y en a un autre, séparé, qui a une nature d'autant plus digne qu'il est plus éloigné de l'ici-bas. Fermez les guillemets. Ensuite, Aristote examine la différence qui existe dans la diversité des mouvements, cette diversité que nous avons évoquée précédemment au chapitre 2. Ouvrez les guillemets. Il n'est possible au corps mu en cercle d'être mu d'un autre mouvement que le sien, ni par nature, ni contre nature, ni lui-même en aucune de ses parties. C'est dans le domaine des contraires que se produisent la génération et la corruption. Or, pour ce corps, il n'y a rien d'où il ait été engendré. De sorte que, si précisément le corps qui est mu en cercle ne peut être sujet ni à une augmentation, ni à une diminution, il est rationnel qu'il soit aussi inaltérable. C'est donc parce qu'il est éternel que le corps premier ne subit aussi ni augmentation ni diminution, et qu'il ne peut vieillir qu'il est inaltérable et impassible. Fermez les guillemets. D'où Aristote désigne quel est le cinquième élément, corrigeant Anaxagore. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi, dans l'idée que le premier corps était différent de la terre, du feu, de l'air et de l'eau, ils ont nommé éther, le lieu le plus élevé, tirant pour lui cette appellation du fait qu'il court toujours pendant un temps éternel. Mais Anaxagore emploie ce terme abusivement et incorrectement, car il emploie éther à la place du feu. Or, nous disons que les seuls mouvements simples qui existent sont le mouvement circulaire et le mouvement rectiligne. Fermez les guillemets. Le cinquième élément que l'on désigne par quintessence vient du latin quinta essentia, qui signifie cinquième essence. À partir de cette traduction latine, nous pouvons dire que la quintessence est pour Aristote l'essence dans l'univers supralunaire, qui, contrairement à l'univers sublunaire, n'est pas soumise à la génération et à la corruption. Donc la quintessence, qui est l'éther, est le substrat des corps célestes, peut-on dire selon le terme qu'emploie Aristote dans la physique. Ouvrez les guillemets. Les substances sensibles ont toutes de la matière, le substrat est une substance, en un sens, c'est la matière. Fermez les guillemets. Il n'est pas soumis à la génération et à la corruption, et il se déplace, non pas en ligne droite, mais en cercle, ce qui explique le mouvement circulaire des corps célestes. N'étant pas soumis à la corruption ni à la génération, le mouvement circulaire dans l'univers supralunaire appartient-il à l'ordre du fini ou de l'infini? Aristote pose la question sur l'existence des corps infinis. Ouvrez les guillemets. Il faut examiner le reste. Et d'abord, s'il existe un corps infini, comme la plupart des anciens philosophes l'ont pensé, ou si c'est là une impossibilité. En effet, prendre ce parti, où le premier n'est pas une petite affaire, mais change du tout au tout dans l'étude de la vérité. L'infini possède la puissance la plus grande, à la fois comme principe et comme quantité, de sorte qu'il n'est ni étrange, ni contraire à la raison, qu'il soit d'une importance extraordinaire d'admettre qu'il existe un corps infini. Fermez les guillemets. Puis il répond que cela est impossible. Ouvrez les guillemets. Il est donc impossible que l'infini se meuve dans sa totalité, car s'il se mouvait un temps soit peu, il serait nécessaire que ce soit en un temps infini. Il est donc impossible que le corps mu en cercle soit infini. De plus, si le ciel est infini et se meut en cercle, il aura parcouru un infini en un temps fini. Soit, en effet, d'un côté un ciel infini qui reste immobile et de l'autre, à l'intérieur de lui, un ciel égal à lui qui se meut, de sorte que si, en étant infini, ce dernier a accompli une révolution, il a parcouru un infini égal à lui-même dans un temps fini. Mais nous avons dit que cela est impossible. Il est donc manifeste qu'il n'est pas possible que ce qui est mu de façon circulaire soit sans fin ni infini, mais qu'il a une fin. Fermez les guillemets. En tant qu'il a une fin, le ciel est-il unique ou existe-t-il plusieurs cieux? Aristote examine cette question. Que non seulement le ciel soit un, mais qu'il soit impossible qu'il y en ait un jour plusieurs, et de plus qu'il soit éternel du fait qu'il est incorruptible et ingénéré, disons-le, en commençant par considérer des difficultés sur ce sujet. Fermez les guillemets. Aristote tente de résoudre cette difficulté. Ouvrez les guillemets. Il est donc manifeste, à partir de ce qui a été dit, qu'il n'est possible ni qu'une masse corporelle soit à l'extérieur du ciel, ni qu'il soit permis à aucune d'y venir à l'être. Le monde tout entier est donc formé de l'ensemble de sa matière propre, car nous avons dit que c'est le corps naturel et sensible qui constitue pour lui la matière. De sorte qu'il n'existe pas effectivement plusieurs cieux, qu'il n'y en a jamais eu plusieurs, et qu'il n'est pas possible que plusieurs mondes viennent à l'être. Ce ciel-ci est un, seul et parfait. Il est en même temps clair qu'il n'y a ni lieu, ni vide, ni temps en dehors du ciel. C'est pourquoi les êtres de là-bas, par nature, n'ont ni lieu, ni temps qui les fasse vieillir. Et il n'y a pas non plus aucun changement pour les êtres qui sont disposés au-dessus de la translation la plus extérieure. Fermez les guillemets. Enfin, Aristote conclut à ce sujet que donc il n'existe qu'un seul ciel, qu'il soit ingénérable et éternel, et de plus qu'il soit animé d'un mouvement régulier, nous l'avons assez exposé. Fermez les guillemets. Nous pouvons terminer cette approche de la quintessence dans le mouvement circulaire par cette remarque d'Aristote à propos des astres dans son traité du ciel. On a donc établi que les astres sont périphériques et ne se meuvent pas par eux-mêmes. Fermez les guillemets. Puis à propos de la Terre, il reste à parler de la Terre, où elle se trouve située, si elle fait partie des choses en repos ou des choses en mouvement, et de sa forme. concernant sa position. Tous n'ont pas la même opinion. Mais la majorité affirme qu'elle se trouve au milieu de l'univers. Ce sont ceux qui disent que la totalité du ciel est finie. Fermez les guillemets.